On est sur RFI tout de suite, le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Il est 9h10 à Port-au-Prince. Port-au-Prince qui a vécu l'horreur hier. La guerre des gangs se déroule aussi dans le centre de la capitale haïtienne. 11 femmes tuées chaque jour au Mexique et la justice qui ne fait rien, c'est notre dossier du jour. Ce sera juste avant le journal de la première avec vous, Benoît Ferrand, et le Covid qui semble marquer le pas en Guadeloupe.
Et oui, comme en Martinique, le nombre de nouveaux cas reste élevé, mais il est plutôt en diminution.
On en parle dans une quinzaine de minutes, Benoît. Bienvenue à tous. C'est une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux en Haïti. Images glaçantes d'échanges de coups de feu ininterrompus hier dans le centre de Port-au-Prince. La guerre des gangs s'étend au centre-ville de la capitale, aggravant un peu plus la situation pour les riverains, Amélie Baron.
Les rafales de tirs ont débuté à peine le soleil levé. C'est une véritable guerre rangée que se sont livrées des gangs au niveau du centre-ville et du quartier de Bel Air. Cela fait déjà des mois que le cœur historique de la capitale est devenu une zone de non-droit sous l'emprise des bandes criminelles. Fini les rues grouillantes de marchands, elles sont aujourd'hui désertées, jonchées d'ordures et gagnées par la végétation. Hier, les rares personnes contraintes d'y passer ont dû fuir en courant pour éviter d'être touchées par une balle perdue. Des balles perdues qui tuent parfois à des centaines de mettre des zones d'affrontement. Des enfants, des femmes enceintes, des hommes totalement étrangers au conflit armé entre les gangs. Hier, la police est intervenue contre ces criminels qui s'affrontent à portée de tir du palais présidentiel. Les pompiers ont aussi pu éteindre le début d'incendie qui a partiellement endommagé la cathédrale provisoire, la cathédrale historique détruite par le séisme de 2010 n'ayant toujours pas été reconstruite. Ce qui est quelque part symbolique du centre-ville de la capitale qui semble aujourd'hui abandonné par l'État et laissé aux seules bandes armées.
Et ces balles perdues que vous évoquiez, Amélie, elles ont fait une victime, un collaborateur du journal Le Nouvelliste. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef du quotidien. C'est un graphiste qui travaille pour Le Nouvelliste qui a été blessé. Quelles sont les nouvelles ce matin, Franz? Dans quel état se trouve-t-il?
Il va mieux, il est en croix à l'hôpital, il est sous observation. Il a été soigné hier à l'hôpital. Le matin même où le journal avait fait la une avec les balles perdues de la République, eh bien, on a eu une victime parmi nos proches, mais il va mieux ce matin.
Alors parmi les conséquences de cette terreur que font régner les bandes criminelles à Port-au-Prince, Franz, c'est bien sûr toutes les institutions, maintenant même du centre de la capitale, qui sont totalement paralysées et à l'arrêt.
Tout à fait. Alors, le centre-ville de Port-au-Prince était déjà un centre-ville dévasté depuis le tremblement de terre. L'insécurité avait déjà frappé une partie du centre-ville de Port-au-Prince, où quasiment toutes les entreprises avaient fui. Et là, c'est la deuxième partie du centre-ville de Port-au-Prince, celle qui fonctionnait encore, qui est en train de fermer ses portes. Les institutions, les unes après les autres, ont passé des consignes depuis lundi pour que les employés ne viennent pas. Les portes sont restées fermées parce que la violence est en train de s'étendre. Et il faut dire que tout s'est passé hier à quelques pas du Champ de Mars, du Palais National, du quartier général des Forces armées d'Haïti, en réalité des dernières institutions publiques qui fonctionnent dans la capitale haïtienne. Et là, tout le monde a dû fuir et se mettre à l'abri.
Parmi ces institutions, il y a le tribunal de première instance de Port-au-Prince, dont on a beaucoup parlé, qui est aux mains des gangs déjà. Et à présent, Franz, ces gangs s'attaquent aussi au parquet de l'aire métropolitaine.
Et là, c'est une attaque systématique. Ils attaquent au parquet. Le parquet, c'est le centre de la poursuite judiciaire en Haïti. Eh bien, ils attaquent et ils brûlent les documents, ils brûlent les archives, ils brûlent les pièces à conviction. Et le dernier cas en date se passait à la Croix des Bouquets. À la Croix des Bouquets, où se trouve un gang puissant, celui des 400 Marozo. Eh bien, ils ont attaqué le parquet et systématiquement, chambre après chambre, pièce après pièce, ils ont tout détruit.
Et ainsi, si les gros calibres résonnent jour et nuit au centre de la capitale haïtienne, le silence des autorités, lui, est assourdissant, Franz. Ça, c'est ce que vous écrivez dans votre éditorial du jour.
Tout à fait. Ça fait une semaine qu'on tire sans arrêt à Port-au-Prince, au centre-ville, à quelques pas du Palais National. Et les autorités haïtiennes n'ont ni sorti de communiqué, ni annoncé de mesures. Ils n'ont même pas appelé au calme. Il faut dire que la situation se détériore sans qu'aucune autorité haïtienne ne se prononce sur la question. C'était déjà le cas il y a 15 jours quand les massacres à Cité Soleil étaient en train de se produire. Là encore, l'État s'était tu, mais cette fois, c'est à quelques mètres du Palais national et c'est le même réflexe. L'État se tait, l'État attend, l'État ne fait rien et l'État espère que la situation va se résoudre toute seule.
Et c'est à lire dans votre éditorial donc de ce jour dans Le Nouvelliste. Franz Duval, rédacteur en chef avec nous en ligne de Port-au-Prince. Merci beaucoup.
RFI, les voix du monde.
Il est 9h15 à Washington. Le café doit être un peu moins amer ce matin pour Joe Biden, le président américain, qui se débarrasse d'une grosse épine dans le pied. Joe Manchin, sénateur de l'aile droite du Parti démocrate, rentre finalement dans le rang et accepte de signer un texte phare, le paquet climat du président. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Un texte qui était bloqué au Sénat justement à cause de ce Joe Manchin.
Oui, le plan d'investissement prévoit entre autres des aides spécifiques pour les communautés afro-américaines et hispaniques qui sont, vous savez, particulièrement exposées au changement climatique. Exemple à Los Angeles où les autorités ont délibérément laissé installer ce que le Los Angeles Times appelle des inégalités climatiques dans le sud de la ville. Écrit le journal, les bâtiments sont mal isolés, il manque d'espace vert, ce qui fait que les habitants souffrent particulièrement des vagues de chaleur comme celles qui sont en train d'arriver en ce moment dans la région. Beaucoup d'appartements ne sont pas équipés de climatiseurs et s'il y en a, eh bien les locataires n'ont souvent pas les moyens de les allumer. Ça coûte trop cher, écrit le Los Angeles Times.
Les États-Unis, où viennent de se terminer les championnats du monde d'athlétisme. Et après cette compétition, Jaime Pérez, une médaillée olympique, a décidé de ne pas rentrer chez elle, à Cuba. C'est loin d'être un cas isolé. Anaël Larue, des sportifs qui profitent ainsi des rendez-vous internationaux pour abandonner l'île communiste, c'est fréquent. Mais cette année, eh bien, le phénomène s'accélère.
Oui, en effet, c'est la 19e athlète à faire faux bond à la délégation cubaine lors d'événements internationaux depuis le début de l'année. C'est lors de son escale à Miami que la sportive Jaime Pérez, 31 ans, originaire de Santiago, a pris la fuite. Elle a suivi les pas de la lanceuse de javelot. Cette dernière avait elle aussi faussé compagnie dans ce même aéroport, mais sur le vol aller qui amenait les athlètes cubains au 18e championnat d'athlétisme qui viennent de se terminer aux États-Unis. La principale raison de cette hémorragie, eh bien, c'est la crise économique à Cuba, la pire depuis 3 décennies entre le coronavirus et le renforcement des sanctions américaines sous le mandat de Donald Trump. Sur les réseaux sociaux, un journaliste sportif cubain parle d'une question de survie. L'Institut cubain du sport, lui, voit les choses autrement. Il qualifie ses défections d'indiscipline grave. Forcément, ses départs pèsent sur le tableau des médailles. À Eugene, pour la première fois de son histoire, Cuba n'a décroché aucune médaille.
Anaël Larue, merci.
RFI, les voix du monde.
Aquella historia de dolor y de desprecios, originada por una mentalidad colonizadora.
À nouveau, François demande pardon aux autochtones canadiens pour le scandale des pensionnats. C'était hier à Québec, deuxième étape de son pèlerinage pénitentiel, le pape au Canada, Arim.
Oui, le journal Le Devoir s'intéresse plutôt à un autre pèlerinage, Michael, celui de 13 autochtones qui ont parcouru presque 300 km à pied pour voir le pape sur les plaines d'Abraham, hier au parc municipal de la ville de Québec. Une expérience incroyable, raconte une des marcheuses au journal Le Devoir. Il y a 6 jours, nous étions 13 étrangers venus de nations différentes. Aujourd'hui, nous sommes une famille.
On a marché pour des tonnes de gens qui ont été, qui ont vécu, qui ont pensionnat, qui ne peuvent plus maintenant, puis pour ceux qui n'ont même pas pu arriver à l'âge.
On était un bon petit groupe qui avançait et qui voulait guérir aussi.
Des propos recueillis par Pascal Guéricola, des marcheurs à Rime qui se tournent maintenant vers la jeune génération d'Autochtones.
Les jeunes incarnent la fin de la contrition autochtone, selon un grand chef cité par Le Devoir. Notre rôle, ce sera de tailler une place pour les enjeux, autochtones dans l'espace public et l'Église catholique dans tout ça. Eh bien, je ne pense pas qu'elle ait un rôle à jouer dans notre avenir, explique l'un des marcheurs autochtones au journal Le Devoir.
Et ce matin, le pape en préside une messe dans le plus ancien lieu de pèlerinage d'Amérique du Nord. Plus au sud, au Pérou, à Rime, le président de gauche, Pedro Castillo, fête sa première année au pouvoir.
Exactement, il doit s'exprimer ce jeudi même devant le Parlement et selon un député d'opposition cité par El Comercio, eh bien ce serait bien qu'il s'explique surtout sur les accusations de corruption qui pèsent contre lui. Pedro Castillo fait l'objet effectivement de 5 enquêtes judiciaires, entre autres justement pour corruption. Hasard ou pas, la presse péruvienne, Michael, de ce jeudi révèle encore une autre affaire, selon un ancien proche de Pedro Castillo qui est passé aux aveux, cité par le journal Pérou 21. 3 policiers affectés à la présidence auraient récolté de l'argent de plusieurs hauts fonctionnaires des forces de l'ordre en échange de quoi ? Eh ben, d'une promesse de promotion. Le président aurait été au courant de cette pratique.
Et on verra s'il en parle ou pas dans son discours aujourd'hui. On y reviendra en tout cas demain. Harim, pour terminer, vous nous parlez de cette tentative d'ingérence hongroise dans la campagne présidentielle au Brésil.
Oui, ça fait la une de la presse brésilienne. La Hongrie aurait proposé son aide pour la réélection de Jair Bolsonaro cette année. Le journal Folha de São Paulo a obtenu la copie d'une note de la ministre de la Famille brésilienne dans laquelle elle relate cette proposition faite par le chef de la diplomatie hongroise lors d'une rencontre en Europe. Selon le journal, la ministre brésilienne n'aurait pas réagi à la proposition de la Hongrie.
Et si la Hongrie veut que Jair Bolsonaro soit réélu, c'est pas le cas de la Colombie. Hein.
Exactement, c'est ce qu'a affirmé sa future vice-présidente Francia Marquez, qui prendra ses fonctions dans 10 jours. Dans une interview accordée à Folha de São Paulo, elle n'a laissé aucun doute sur le fait qu'elle souhaitait effectivement la victoire de l'ancien président Lula en octobre prochain.
Harim Lipold, merci.
RFI, la radio del mundo.
C'est un chiffre que l'on vous répète souvent et pourtant à chaque fois il est à peine croyable. Écoutez bien, au Mexique, en moyenne, 11 femmes sont tuées chaque jour. Et l'État ne fait rien pour lutter contre la situation selon les ONG comme Amnesty International. Le journaliste Soledad Harkin a perdu sa fille il y a 4 ans. Elle se bat aujourd'hui pour que la justice se saisisse de tous ses crimes. D'ailleurs, comment expliquer de telles statistiques ? C'est la première question que lui a posée Christophe Paget, qui l'a rencontrée.
Fondamentalement, c'est pour des raisons de genre. Les femmes sont moins considérées, mal considérées à cause de ce machisme exacerbé, cette attitude de supériorité des hommes. Cela se voit aussi dans la manière dont elles sont traitées après avoir été tuées. Beaucoup de corps sont abandonnés sur des tas d'ordures ou dans la rue, au vu et au su de tous. Cela en dit long sur le message envoyé. Plus de 40% des femmes assassinées le sont dans leur maison, par leur conjoint ou ex-conjoint ou leur petite amie. À peu près autant sont tuées dans la rue, avec des armes et par des personnes en lien avec le crime organisé.
Con armas que tienen que ver con el crimen organizado.
Vous dites qu'il y a un problème avec la justice concernant ces crimes.
Oui,
97% de ces crimes ne sont jamais éclaircis parce que dans les institutions se reproduit ce qui se passe dans la vie quotidienne. Nous avons d'excellentes lois, nos fonctionnaires sont censés être formés à ces situations, mais la réalité est tout autre. Non seulement ils ne prennent pas en compte le genre des victimes quand ils enquêtent, mais très souvent ils n'enquêtent pas. Du coup, les meurtriers ne font jamais face à la justice. Et quand ça arrive, les juges, les magistrats et jusqu'aux ministres les protègent. À Oaxaca, je connais 2 femmes qui attendent depuis 9 et 10 ans que justice soit faite pour leurs filles.
Las personas et ceux qui dénoncent cette situation, ces mortes font l'objet de menaces.
C'est très fréquent. Dans mon cas, j'ai reçu des menaces de mort. Je ne sais pas de qui. Les menaces peuvent venir même des policiers eux-mêmes parce qu'ils ont été achetés par les tueurs. C'est la réalité. Parfois, c'est le procureur lui-même, comme cela m'est arrivé. Il était tellement furieux qu'il a fini par me menacer, me harceler, me mettant en danger physiquement plus d'une fois.
Pour lutter contre ça, vous avez créé un tribunal citoyen pour les femmes victimes de féminicides.
Devant l'inaction, le manque de réponse des autorités, plusieurs organisations ont décidé d'imiter le fonctionnement d'un tribunal. 5 expertes renommées y ont participé. Nous l'avons fait dans la rue. Des gens sont venus écouter, tant et si bien que 2 femmes supplémentaires sont venues présenter leur cas devant ce tribunal citoyen parce qu'il ne nous reste que ça. Nous ne l'avons fait qu'une fois, mais nous allons peut-être le refaire parce que certaines personnes le demandent. De cette opération est sortie une résolution de 20 pages où les juges ont dit, pour chaque cas, quel droit avait été violé et qui il faut punir. Nous l'avons envoyé le soir même au procureur. S'il en avait tenu compte, au moins 5 des 6 cas seraient résolus aujourd'hui. Mais il n'a rien fait. Nous voulons avoir une réponse sur ces cas avant de continuer avec d'autres. Mais si rien n'aboutit, avoir montré les déficiences de l'État, des gens qui n'ont pas fait leur devoir, ça aura déjà été suffisant.
Es más que suficiente.
Est-ce que ces féminicides, c'est quelque chose dont les Mexicains parlent entre eux ?
À chaque fois qu'une femme est assassinée, les gens disent « une femme de plus a été assassinée ». Du coup, à chaque fois, une femme de plus continue d'être assassinée. Les gens l'intègrent comme quelque chose de naturel, de normal. Mais c'est aussi une responsabilité des institutions. Elles doivent faire en sorte que les citoyens comprennent que pas un seul crime ne doit être toléré. Et elles ne le font pas. Elles ne font pas de prévention et ne punissent pas. Donc la population ne réalise pas la situation alors que tant de femmes sont tuées chaque jour. Au Mexique, les institutions de défense des droits des femmes ont été créées en 2000 avec le président Fox. Et depuis, en 22 ans, il n'y a pas eu une seule campagne de prévention contre la violence.
Sin hacer campañas de prevención a la violencia.
Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes s'engagent sur ces questions ?
Oui, il y a une vingtaine d'années, les féministes se plaignaient qu'il n'y avait plus de jeunes dans le mouvement. Mais soudain, le féminicide et le thème de l'avortement avec la Ola Verde, la vague verte, les a fait descendre dans les rues à nouveau. Et aujourd'hui, elles sont au premier rang des manifestations et elles affrontent la police qui les met en prison, qui les frappe, mais elles disent « je m'en moque ». Cette marche du 8 mars 2019 a été emblématique. Elles ont causé une immense polémique. Tous les journaux en ont fait leur une. Et depuis, chaque fois que les femmes descendent dans la rue, c'est en première page.
Primera plana en los medios del país.
Et les jeunes hommes ?
Je ne suis pas certaine qu'ils s'associent au mouvement, mais beaucoup changent. C'est un processus lent. Ces jeunes hommes changent parce que la violence les tue aussi, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons. Ils se rendent compte que s'ils font le choix de la violence, elle les tue.
Si van por ese camino, la violencia los está matando.
Soledad Rajkin, défenseuse des droits humains et journaliste au Mexique, avec Christophe Paget. Et c'est le journal de la première pour terminer avec vous, Benoît Ferrand. Bonjour.
Bonjour, Mickaël.
Une bonne nouvelle, la septième vague de l'épidémie de Covid montre des signes d'essoufflement en Guadeloupe.
Oui, comme en Martinique d'ailleurs, le nombre de nouveaux cas reste certes élevé, mais il est plutôt en diminution. Pas d'embouteillage non plus à signaler du côté des hôpitaux, et tout ça malgré un taux de vaccinés qui ne bouge désespérément plus d'un millimètre. Christelle Théophile.
Un peu plus de 3000 contre un peu plus de 3400 la semaine précédente. La baisse des contaminations amorcée mi-juillet se poursuit. Taux de positivité, taux d'incidence, tous les chiffres sont en diminution. Et cela pourrait durer puisque le taux de reproduction est toujours en dessous de 1. Sur le front des variants, pas de nouveautés. Ce sont encore les descendants d'Omicron, BA4 et BA5, qui sont largement majoritaires dans les dépistages. À l'hôpital aussi, la baisse est palpable. Les urgences Covid sont moins fréquentées. 6 patients sont en réanimation, un de moins que la semaine d'avant. 61 sont suivis dans les services de médecine générale, 63 sous oxygène à domicile. Plus tragique, par contre, le décès de 6 malades, 4 hommes et 2 femmes, moyenne d'âge 76 ans. Enfin, la vaccination, le seul chiffre quasiment invariable depuis maintenant plusieurs mois. 45% de la population a reçu une dose, 26% disposent d'un schéma vaccinal complet.
On reste dans le domaine de la santé avec l'association Amazon Martinique, association qui accompagne les femmes atteintes d'un cancer du sein. Cette association va recevoir de la part de la fondation La France s'engage une dotation de 100 000 euros sur 3 ans. Alexandra Arner, fondatrice de l'association, est au micro de la première Martinique.
Les Amazones sont heureuses, les Amazones de Martinique, mais aussi les Amazones des autres territoires d'outre-mer où nous existons, en Guadeloupe, à Paris, à La Réunion, mais également Polynésie française. L'objectif de ce prix, en fait, c'est de nous aider à permettre que nous arrivions à essaimer le modèle du NID, qui est cette maison participative, qui est la maison qui accueille les femmes touchées par le cancer, que nous avons réussi à créer en Martinique, qui a fait ses preuves. Et l'objectif est de créer d'autres maisons dans d'autres territoires d'outre-mer et également aussi de donner à l'association en Martinique les outils pour être encore plus forte et encore plus efficace dans son accompagnement des femmes touchées par le cancer.
Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première qui referment, comme chaque jour, évidemment, ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques, réalisé aujourd'hui par Jérémy Boucher. Merci à lui. On se retrouve demain. En attendant, vous savez, vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur l'application RFI Pure Radio et l'actualité des Amériques à suivre, aussi sur Twitter, @RFIAmérique.
RFI, la sélection du mois.
Marissa Monte, Seu George et Carlinhos Brown.
Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre.
Showing off a party. Davido and Da Baby.
Working with the man, it's a lot of things you gotta understand. It's them beside me. Down, down. I'm not just anybody.
She's a good girl.